Donc nous allons avoir la troisième instruction. Après, il y aura un assez grand temps libre. Et donc vous avez le parc à votre disposition, mais je pense que la chapelle maintenant est accessible. Le séminariste est allé vérifier. Donc vous pourrez aller à la chapelle ou vous recueillir dans le parc ou parler avec le père Bruno ou moi-même. Et ensuite, à 15h30, nous irons donc à la chapelle de l'Immaculée pour le salut. Et puis je vous signale qu'ici vous avez les tracts de nos activités de l'été, donc avec les camps pour vos enfants, camp vélo de 12 à 15 et puis camp canoë de... Voilà, enfin des choses bien. Et puis la retraite du rosaire bien sûr, la retraite du rosaire c'est une perfection qui manque à plusieurs d'entre vous. Voilà, bon, profite pour un peu de pub au passage, sans supplément de prix. Donc maintenant le pont entre Dieu et l'homme. Donc nous avons essayé de camper rapidement les deux partenaires de l'Alliance. Hein. La geste de l'Alliance, c'est le mot geste au sens où il n'est plus employé aujourd'hui. Hein, le gesta, ce qui est fait, c'est un caractère un peu chevaleresque, un peu noble. Donc Dieu nous propose son Alliance, donc qui est Dieu, qui est l'homme. Et c'est déjà, au fond, déjà un grand sujet d'action de grâce que de pouvoir remercier l'Église, nous répondre, nous orienter vers la contemplation de ces mystères, plus que répondre à ces questions, puisque c'est plutôt des mystères qu'on contemple que des choses qu'on peut répondre de façon totale et exhaustive. Alors c'est l'avantage de la religion, de la métaphysique et de la théologie, comme de la poésie d'une certaine façon et de l'art, c'est que la même chose peut toujours être reprise. Quand vous avez démontré un théorème, après vous arrêtez de contempler, enfin, voilà, vous allez chercher des conclusions, faire autre chose, quoi. Vous avez complètement épuisé l'intelligibilité de la chose, au moins dans certains domaines. Tandis qu'en religion, on peut contempler l'adoration, l'incarnation, comme on va essayer de le faire, le mystère de la vision béatifique, voilà, et continuer toujours, et on revient à la même chose, et on a toujours encore plus soif de la même chose. C'est la différence. Ce que les gens ont beaucoup de mal à comprendre aujourd'hui, c'est que notre intelligence n'est pas faite simplement pour raisonner. Hein, je ne suis pas contre le raisonnement, évidemment, hein, la logique et compagnie, mais elle est aussi faite pour saisir, pour communier avec l'être, le vrai, le bien et le beau, les transcendantaux. Cette capacité de communion est très mystérieuse, et c'est la perte de vue de cette dimension de notre esprit qui fait qu'on pense que la théologie et la religion sont des choses surréalistes, alors qu'elles sont hyper réaliste. Donc le pont entre Dieu et l'homme, nous avons vu il y a eu cette rupture du péché originel et qui nous est transmis, au moins nous la ratifions d'ailleurs lorsque nous péchons nous-mêmes, nous est transmis à l'état d'un certain désordre dans notre nature, dans l'organisation de nos puissances. Hein. Entre nous et les actes bons, il y a une sorte de lourdeur et de frein. Voilà. Et donc comment va-t-on rétablir la communion, vous voyez ? Il est très important de se redire ou d'apprendre que si Dieu n'avait pas fait le premier pas, ben on était foutu, hein, comme disent les gens de l'Académie française, quoi. On était fichu. Parce qu'il y a un vieux texte pontifical qui s'appelle l'Indiculus, qui est du 3e ou 4e siècle, qui dit « L'homme écrasé sous les ruines du péché ne pouvait rien faire, à moins que la grâce du Christ ne vienne le chercher, etc. » Un peu comme Samson là qui ébranle les colonnes du temple pour tuer tous les Philistins, ben il est effondré dessous. Donc l'homme, si vous voulez, est plus fort pour le mal que pour le bien. C'est, enfin, en un sens, vous voyez, pour faire un enfant, pour l'éduquer, bonjour le boulot, quoi. Hein, surtout pour l'éduquer, enfin, pour le faire aussi. Mais bon. Pour faire un génie, plusieurs siècles de macération dans la bonté. Pour faire du droit, du vrai droit, enfin le droit des gens, la civilisation, plusieurs siècles de jurisprudence, etc., de réflexion des sages. Par contre, pour tuer Mozart, il suffit d'appuyer sur un flingue, enfin, et puis on lui met une balle dans la tête, quoi. Ou pour pervertir quelqu'un, il suffit d'un acte, parfois. Donc c'est très curieux, vous voyez, on a une grande puissance de mal, quoi. Hein? Alors au lieu de se désespérer, il faut voir qu'en face de ça, eh bien justement, Dieu va nous tendre la main. Hein? Pour réparer ce que nous avions fait, qui est à la fois un désordre, c'est surtout le désordre de l'amour, d'ailleurs le péché. Hein, l'homme est accroché en fait par l'amour. Il y a un beau passage de Catherine de Sienne dans le dialogue qui dit que l'homme est fait pour aimer, il ne peut pas s'empêcher d'aimer, alors le tout c'est d'aimer ce qu'il faut aimer, quoi. Quand on fait de l'amour en absolu, il faut faire attention parce qu'il faut préciser l'objet. Si c'est l'amour de Dieu et des choses en Dieu, ça va. Mais l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu a fait la cité du diable, nous dit saint Augustin. L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi éventuellement, c'est-à-dire jusqu'à sacrifier. Le mépris de soi, c'est une façon de parler. Hein. En fait, c'est une grande estime de soi que de se mépriser quand il faut, quoi. Bon, par exemple, mépriser sa vie pour ne pas trahir le Christ devant l'apostasie qu'on nous propose. Mais ce mépris de soi, c'est une partie de soi, si vous voulez, et pour l'amour de Dieu, et ça, j'ai un vrai amour de soi. Mais donc, pour rétablir l'ordre de l'amour, saint Augustin aime beaucoup cette expression, l'ordre de l'amour. Et donc, le péché ébranle l'ordre de l'amour, on aime dans le désordre, et donc, il n'y a que Dieu qui peut remettre les choses à l'endroit, vous voyez, en rentrant dans notre cœur et en tournant notre volonté dans le bon sens. C'est un grand miracle que Dieu rentre dans la volonté par la grâce et tourne la volonté vers son bien à elle. Et c'est assez admirable, une conversion, c'est merveilleux, une conversion d'un adulte, c'est parce que Dieu a tourné la volonté vers le bien. Voilà. En plus, il y a une souillure, dans le péché, on se défigure soi-même. Un seul Dieu peut, par la beauté de la grâce, rendre à l'âme sa splendeur de fille de Dieu. Et c'est ce qui se passe dans un baptême, c'est très touchant dans un baptême, au moment où le prêtre ou la personne qui baptise verse l'eau, eh bien, il se passe quelque chose de plus important que la création naturelle de l'univers. L'âme accède au mystère de Dieu, à la beauté divine. Elle retrouve la beauté du divin archétype, nous disent les pères, et qui était souillée par le péché. Et puis une offense, alors là c'est un autre aspect dans le péché, qui est encore plus profond, qui est plus mystérieux. En tant qu'il est une souillure et un désordre, le péché est un mal de l'homme, parce qu'on fait du mal à soi-même, on ne peut pas offenser Dieu sans se démolir un peu soi-même. Et Dieu a tout désordre par rapport à la créature, comme c'est Dieu qui a fait la créature, finit par aussi s'orienter à être une offense à Dieu. Mais on comprend mieux, c'est plus à notre portée de comprendre que bon, c'est pas beau, vous voyez, c'est un terme que les Grecs emploient, le vice, c'est ce qui est laid, vous voyez. La beauté, c'est beau, la vertu, c'est bon et beau, etc. Donc on saisit mieux ça, et puis le désordre, ben, on l'expérimente, donc quand on retrouve la paix de l'ordre, c'est quand même merveilleux, dans les conversions de. Voilà, on peut souffrir, mais on souffre dans la lumière, quoi. Donc c'est. Mais par contre, il y a l'offense qui est mystérieuse. Le péché, le mal de Dieu, entre guillemets. Vous voyez, saint Alphonse de Ligorie dit le péché est si horrible que s'il était possible, il tuerait Dieu par la tristesse infinie qu'il lui cause. C'est un anthropomorphisme, bien sûr. Mais enfin, le péché en tant qu'il, du côté de l'homme, bien sûr, Dieu reste dans sa joie et son bonheur infini, mais l'homme se dérobe tellement à l'amour de Dieu et souille en lui l'image de Dieu, il cherche en fait à détruire Dieu, mais comme il ne peut pas atteindre Dieu, il se détruit lui-même. Et donc, vu que l'offense se mesure à la grandeur de celui qui est offensé, et donc saint Thomas d'Aquin nous dit qu'il y a comme une sorte d'infinité dans le péché grave. Alors ça, je crois que c'est une chose assez impressionnante, mais un peu terrifiante quand on y pense, hein, mais qui est vraie, vous voyez. Et il y a une tendance de dire, vous voyez, bon, ben, Dieu, il s'en fiche, il est au-delà de tout ça. Mais ça, c'est pas le vrai Dieu, hein, c'est pas Dieu. Donc c'est pas le vrai Dieu, c'est pas Dieu. Un Dieu qui s'occupe pas de sa créature et auquel le bien de sa créature et le péché ou non de sa créature est indifférent, n'est pas le vrai Dieu. Il n'a pas de providence, c'est le Dieu des théistes, si vous voulez, au maximum. Mais c'est un Dieu qu'on n'a pas à prier. C'est un Dieu, le Dieu de Voltaire, il n'y a pas besoin de le prier, c'est un Dieu qui fait tourner la nécessité des choses, point de la ligne. Mais c'est pas vrai. Parce que le péché lèse le droit infini de l'amour à être aimé. Il y a un droit, entre guillemets, un droit de l'amour à être aimé. Et si nous nous dérobons à ça, nous dérobons à ce baiser d'amour entre Dieu et nous, entre l'infini qui nous entoure de sa tendresse et notre âme, eh bien autant qu'il est en nous, nous cherchons à annuler Dieu. On n'y arrive pas, évidemment. Mais c'est ce que Dante a bien vu dans le frontispice de son grand triptyque, la comédie, hein, la divine comédie. Donc dans l'enfer, il y a quelque chose qui est écrit à l'entrée de l'enfer. Hein, et justement, c'est une phrase trinitaire. Hein, ce qui m'a fait, c'est la divine puissance, la souveraine sagesse, c'est le premier amour. La somma sapiens, c'est le primo amore. L'amour, en fait, c'est l'existence même d'un amour infini, qui fait que si je m'y dérobe, je me mets moi-même dans ce que la théologie appelle la damnation. Alors c'est extrêmement profond. Dante était quelqu'un d'un thomiste. Un thomiste un peu original, mais enfin vraiment thomiste. Alors sa cosmologie, évidemment, n'est pas tout à fait conforme à l'astrophysique moderne, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pour comme Romano Guardini, il pense que Dante a eu une vision. Et c'est vrai que quand il se promène, on a vraiment l'impression qu'il, enfin, en tout cas, il reconstitue bien les choses, et même la partie purgatoire est très intéressante hein, avec les anges qui chantent les béatitudes en effaçant les souillures des sept vices principaux, là avec une et puis il y a un chant qui s'élève en chantant les béatitudes contraires aux sept vices, et puis l'âme passe d'une corniche du purgatoire à l'autre, c'est extrêmement, extrêmement puissant. Enfin, c'est une des plus grandes œuvres de l'humanité, hein, la Divine Comédie. Mais enfin, donc, il y a cette fameuse phrase, donc, que c'est en quelque sorte le refus de l'amour trinitaire qui fait l'enfer, quoi. Parce que l'homme a en lui-même, comme l'ange, une puissance infinie. Donc s'il se dérobe à l'amour, il se creuse dans la négation, le refus, et il s'enferme. Voilà. Dans l'auto-exclusion, comme dit le catéchisme de l'Église catholique, l'auto-exclusion qui est le don. Alors comment va-t-on réparer ça? Vous voyez, saint Thomas nous dit, Dieu n'a pas voulu simplement absoudre, si vous voulez, ou libérer l'homme du péché, mais il a voulu que ce soit réparé. C'est-à-dire qu'il y a eu une catastrophe, mais par le moyen que Dieu a trouvé, eh bien finalement ça va être réparé. C'est-à-dire que Dieu va recevoir une satisfaction. Et ça c'est important parce que c'est aussi une des grandes vérités très nourrissantes du christianisme, qui est tout à fait écartée ou oubliée par la théologie, par une partie de la théologie moderne. On n'aime pas la satisfaction, et je pense que ça explique aussi des controverses sur la liturgie, parce que les liturgies sacrales, aussi bien latines, romaines, dominicaines ou autres que orientales, sont un accent mis sur la satisfaction qui est considérable. Dans le rite byzantin, le prêtre n'arrête pas de dire qu'il est indigne et que c'est le sacrifice du Christ qui va, etc. Moi, une fois, on m'avait posé la question, c'était en 98, là, quand on a eu le pèlerinage à Rome, et c'était des gens pour faire un film sur le pèlerinage des Américains, ils me posent la question, ils me disent, qu'est-ce que vous ressentez quand vous dites la messe? Ah, ben, je ne m'étais jamais posé la question, moi. Quel est votre feeling et tout. Alors, je dis, écoutez, je me sens indigne. Je me sens indigné. Plus on va, plus. Alors, au rite dominicain, c'est bien parce qu'on plonge tout le temps, là, au début. Enfin, quand on n'a pas trop mal au dos, on reste plongé même pendant le confiteur des fidèles, quoi. Ça ne veut pas dire que les prêtres romains sont Mais ça veut dire que nous, on fait plus de gymnastique, quoi. Et j'aime bien ça, quoi. Parce que chez les Byzantins aussi, ils sont tout le temps à faire des mitanées. On est complètement indigne. Je vous remercie, ô Dieu Tout-Puissant, vous que servent des myriades d'anges et d'archanges aux sept ailes et qui ont des yeux partout, qui volent et qui crient, sanctus et tout. Parce que. C'est moi que vous avez jugé digne, enfin, vous avez revêtu de sacerdoce, de vous offrir cette hostie sanglante et sans tache, alors que vous êtes servi par tout le ciel. Et c'est un misérable zigouti type, là, que Dieu a appelé, parce que sacerdoce, on s'y pousse pas, on est appelé, quoi. On dit oui, on dit non, mais bon. Donc c'est très beau, on est complètement indigne, quoi. Il y a un père oriental qui s'appelle Grégoire de Narek, qui a qu'un truc qui est un super miséréré en 300 pages, le Miserere, c'est le tome 50 où David demande pardon. Ça s'appelle le livre des lamentations de Grégoire de Narek, qui est presque l'évangile pour les Arméniens, quoi. Donc j'avais lu ça intégralement, j'ai eu la chance d'aller en Arménie, et c'est magnifique, quoi. C'est mis en poésie, si vous voulez, le je suis pécheur, pardon mon Dieu, nianana, je suis vraiment lamentable et tout, mais c'est dans la joie, quoi. Vous voyez, parce qu'en fait, Dieu nous parle, le Christ nous pardonne. Donc il s'accuse pour pas être trop accusé au jugement dernier, quoi. Et c'est vraiment bien, quoi. C'est ce que dit Catherine de Sienne, dit c'est une tristesse qui nourrit. La contrition chrétienne, c'est pas un truc qui vous fait psycho-freudien dépressif, ça vous nourrit. Sinon, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait en place. Parce que le Christ vient nous pardonner. Oui. Donc Dieu a voulu qu'il y ait une satisfaction. Donc dans ces liturgies, on souligne la satisfaction, c'est-à-dire que Dieu reçoit quelque chose qu'il aime davantage que l'offense ne lui déplaît. Mais quand vous avez fait quelque chose, une indélicatesse avec votre épouse, ou ce qui vous arrive très rarement, mais imaginons que ça vous a soit arrivé, ou avec un ami, bon, vous avez fait un truc un peu moche, quoi. Enfin, pas une trahison, enfin vraiment très 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 mortelle, mais enfin quelque chose. Ben, après, quand vous le voyez, ça va, vous lui dites, le gars que vous avez un peu offensé, bon, on n'y pense plus, quoi, ça, on tourne la page. C'est un peu. Eh ben attends, tu manques pas d'air, toi. Non, mais vous voyez, il faut quand même, non, faut un signe, quoi. Il faut offrir davantage, au moins, ben, vraiment, bon, j'ai été moche, je me suis pas rendu compte, je te prie de m'excuser. Enfin, il y a quelque chose, quoi. Ou même, peut-être parce que souvent, il y a le démon muet chez les maris, hein. Ils ne demandent pas pardon, comment. Voilà. Alors au moins, bon, je n'ai pas pensé à l'anniversaire de votre femme pour une année, quoi, ou quelque chose. Enfin, ou un petit geste. Enfin, vous dites-lui qu'il y a un petit geste sur sa tenue ou sur la bouffe qu'elle a faite, qui est spécialement bonne aujourd'hui. Alors comme elle se rend compte, c'est pas habituel, elle dira tiens, il fait un geste pour compenser. Ben. Et ce geste venant de vous, qui est vraiment très mauvais, comme vous le savez, je pose un mulet, va tellement l'étonner que ça lui plaira plus qu'elle ne déteste la petite offense que vous lui avez faite. C'est hyper psychologique. Et c'est bien vu. Chez les religieux, il y a ce qu'on appelle la satisfaction, c'est dans le même mot. Quand vous faites une bourde, enfin, c'est pas un péché forcément, mais habituellement c'est pas un péché, mais vous faites une satisfaction. Dès que vous faites une note fausse, ou vous n'allez pas au bon endroit, vous ne faites pas la bonne inclination, vous n'en tenez pas la bonne antienne, ben, si c'est un petit truc, vous faites vous baisser le scapulaire. Si c'est un gros, vous mettez à genoux. Et si c'est vraiment un plus gros, vous allongez tout le long. Enfin, chez nous, c'est comme ça. La veignard, ça s'appelle la veignard. Et du coup, bon, après, ça me... cet emmerdeur, moi, il a reconnu qu'il déconne, quoi. Parce que sinon, après, ça tourne allègre, quoi. C'est, dans, chez les cisterciens, vous savez, vous avez un grand antiphonaire, comme ça, puis alors, ils tournent la page, et c'est plus anciens, ils sont deux. C'est plus anciens qui tournent la page. Et un jour, c'est une histoire vraie, ça. Parce que chez les religieux, c'est des hommes, hein, c'est des êtres humains qui sont mauvais, qui sont, voilà. Non, mais c'est ça, c'est pas, je pense que c'est des gens moins saints que les séculiers, parce que ils ont besoin de la vie religieuse pour se sanctifier. C'est le contraire de ce que croient les gens. Non, ça, il faut être plus saint pour être prêtre séculier que religieux. Bon. Alors, et là, donc les gars, ils tournent la page comme ça. Et puis un jour, paf! Le plus jeune colle une baffe au plus vieux. Ça fait 20 ans que tu tournes la page en retard. Il y a de quoi devenir dingue, quoi. De notes en retard, donc il s'est passé un torculus ou un podatus ou sous triponctis, enfin je sais pas quoi. Et bon, ça fait du bien, il a foutu sa baffe, après il se colle la super satisfaction. Mais c'est très psychologique. Après, bon, quand vous avez ça. Après, un peu le lire se calme, quoi. Alors, ces trucs-là ont été abandonnés. Bon, les baffes, c'est bien qu'on les abandonne. Mais les satisfactions, c'est dommage. Parce qu'on a besoin aussi, voilà, de manifester qu'on a tort. Faut connaître qu'on a tort et ça va mieux après. Mon capitaine, j'ai fait une connerie, punis-moi. Bon, c'est le légionnaire de base qui a fait sa grosse connerie. Mon capitaine, j'ai fait une connerie, punis-moi. Après, ça va mieux. Bon. Mais c'est très humain, ça. Si vous enlevez tout ça, vous enlevez tous les repères, hein. La punition, c'est le premier droit du coupable. La peine, c'est le premier droit, un droit strict du délinquant. Alors après, il y a la grâce, etc. Il y a la façon de faire, bien sûr. Ça, c'est vrai, il faut être humain. Mais c'est très important. Et si on prive de ça, lisez les spécialistes comme Petit Clerc et compagnie, on désorganise complètement les gens. Complètement. Alors, allez, je vous dis pas de mettre plein de baffes à vos enfants. C'est pas... Surtout que... Mais ils pourront faire des procès, maintenant. Mais enfin, vous voyez, je veux dire qu'il y a des choses... Voilà. Alors donc, quoi, Dieu n'a pas voulu remettre la peine sans satisfaire le péché, sans satisfaction. Ce qui montre sa sévérité, nous dit saint Thomas, ou sa justice. Mais comme l'homme ne pouvait pas satisfaire, vu que c'est une gravité comme infinie, il lui a donné un satisfacteur qui est le Christ. Ce qui montre sa bonté. Et ça, deux ou trois fois, saint Thomas revient là-dessus. Il y a un équilibre magnifique, le mariage de la justice et de la miséricorde dans l'œuvre de la satisfaction. Et c'est pour ça qu'il y a la passion du Christ. Pas pour nous montrer son amour, bien sûr, mais il nous montre son amour en offrant à Dieu, par sa souffrance consentie et sa mort consentie, quelque chose que Dieu aime plus qu'il ne déteste tous les péchés, depuis celui de Caïn jusqu'à ceux de l'Antéchrist. C'est très magnifique, c'est pour ça que la messe est très importante. La messe, c'est ce qui fait descendre la passion à chaque instant du temps, cette magnifique satisfaction, ce qui aide le monde à tenir en équilibre. Hein. Donc seul l'homme Dieu peut réparer le péché. Parce qu'il fallait que quelqu'un dont les actes aient une valeur infinie vienne offrir par amour une réparation pour l'homme. Et ce qui est très beau, c'est que nous sommes associés à cette réparation. Oui. Et c'est mieux de participer à son propre salut que de le recevoir simplement comme une absolution collective à distance. Quoi. Hein, il faut rentrer dedans, et tous les actes que nous faisons dans l'amour du Christ, c'est les actes du Christ, mais c'est les actes ça, voilà, qui participent de la satisfaction du Christ, et qui sont donc extrêmement... qui ont une valeur infinie aux yeux de Dieu, apparemment. Leur communion avec la passion du Christ. Donc c'est quelque chose de très très intéressant, ce qui explique que la croix est vraiment l'axe du monde. Hein. C'est voilà, stat crux, donc volvitur orbis, si c'est chartreux, il y a la croix qui est debout, et le monde tourne autour. Et la messe, voilà, et l'axe, enfin la messe c'est l'axe du temps, quoi, vers le retour du Christ. Voilà, donc ça c'est la raison par rapport à la satisfaction. Et ensuite, il y a une infinité de raisons. C'est la raison principale. Hein. Le Christ s'incarne pour nous autres, les hommes, et pour notre salut par la passion douloureuse. Donc ne soyons pas scotistes. Hein, franciscain au mauvais sens du terme, hein, la raison formelle de l'incarnation, c'est la passion du Christ. Enfin, c'est la position de saint Thomas, mais c'est la bonne, ça je vous la donne. Mmh. Bon. L'autre est très gentil et poétique, mais à mon avis, elle n'est pas pleinement aussi réelle que... De toute façon, nous connaissons la raison décisive par l'Écriture. Et chaque fois que l'Écriture nous parle d'incarnation, c'est pour racheter les hommes par la passion. Et saint Augustin dit une phrase que saint Thomas aime beaucoup, qui reprend à plusieurs reprises, « Pour soigner notre misère, il n'y avait pas de remède plus convenable que celui de la passion du Christ. » Donc Dieu avait d'autres moyens, mais il a choisi celui de la passion du Christ, l'incarnation et la passion. Mais une fois qu'on a dit ça, et il faut se le dire et se le redire, parce que c'est quand même impressionnant de penser à ça, eh bien, il y a un grand nombre de raisons de convenance, de très belles raisons, qu'on peut appeler les harmoniques de l'incarnation, qui font que, qui nous permettent de rentrer par d'autres portes dans le mystère de Jésus-Christ, de l'homme-Dieu. Alors saint Thomas en énumère un certain nombre dans ses œuvres, mais quelque part il dit, au cœur saintement contemplatif, se dévoile toujours sans cesse de nouveau des raisons de cet admirable mystère de l'incarnation. Et quelquefois il dit, on ne les saura pas toutes, et c'est quelque chose de très émouvant de penser que... Moi, on voit saint Dominique qui embrasse le crucifix, ou les saints qui contemplent la passion, saint François, c'est toujours... Il y a toujours un abîme derrière celui que... Un abîme de lumière derrière celui qu'on a déjà un peu cru découvrir. Donc d'abord, je vais vous donner quelques-unes de ces raisons qui sont exposées par saint Thomas dans ce qu'il appelle la Somme contre les gentils, qui est un très beau livre de controverses à mettre entre les mains de ceux qui doivent affronter l'islam en particulier. C'est un début apologétique de ce livre, hein, le livre du prédicateur anti-islamique, donc un livre actuel, très actuel. Il a écrit aussi Les raisons de la foi contre les Sarrasins, qu'il a envoyé à un chantre d'Antioche, justement pour argumenter contre les Sarrasins, aussi contre les Grecs et les Arméniens. Mais enfin, c'est avisé beaucoup aussi la perspective de l'islam. Alors donc, l'incarnation, donc... on peut rapporter ça aux attributs du Christ, hein, qui est la voie, la vérité et la vie. Alors en tant qu'il est la voie, eh bien, il nous encourage, voyez, il réveille l'espérance. Parce que je vous ai dit, l'homme est fait pour voir Dieu, mais c'est tellement élevé qu'on se demande si c'est possible, oui. Voir Dieu lui-même, pas simplement savoir qu'il y a une cause de l'univers, mais voir qui il est. Hein. Et donc l'incarnation, comme Dieu vient lui-même, ça nous prouve qu'il est capable de nous emmener. Si Dieu a pu s'unir à la nature humaine dans Jésus-Christ, eh bien notre petite intelligence pourra s'unir à la belle essence de Dieu dans l'éternité. Parce que celui qui a fait plus peut faire moins. Si un homme Dieu, il peut y avoir des hommes divinisés dans le ciel. Et c'est quelque chose d'inouï. Parce que nous, on est peut-être un peu trop habitués, nous les vieux chrétiens, hein, les anciens catholiques, enfin la plupart d'entre vous... Vous êtes né dans une famille catholique ou voilà ou d'un milieu dans lequel ces choses-là étaient répandues, mais c'est quand même très surprenant parce que ça réveille voilà cette pensée du ciel. Après l'incarnation du Christ, les hommes ont commencé à aspirer plus ardemment vers la béatitude céleste. C'est ce que dit saint Thomas réfléchissant à ça. Et de fait, dans l'Empire romain ou dans d'autres religions, bon, on se concilie les puissances invisibles, l'éternité reste un point d'interrogation. C'est quelque chose de très vague. Évidemment, les anciens y ont pensé. Mais la révélation de l'incarnation de Jésus nous ouvre le ciel. Et donc l'éternité est fait que même le temps, si vous voulez, est pris dans une lumière. Moi, je suis frappé d'une chose, c'est que l'art chrétien, la culture chrétienne, la civilisation chrétienne est aérée. Vous voyez, c'est pas un truc... Quand vous regardez même l'art des pharaons ou des choses comme ça, ou même un certain aspect en Extrême-Orient, il y a quand même quelque chose d'un tout petit peu inhumain, à mon avis. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'excessif dans un domaine, ou de hiératisme, ou d'immobilisme, ou de dureté. Il y a quelque chose... Parce que dans l'art chrétien, il y a la réalité que le temps est entouré par l'éternité. Nous sommes ici, mais nous savons que le Christ est au ciel, et on y va. Donc voilà, la distance est comblée, hein, et le chemin nous est ouvert. Et en plus, nous savons que le Christ nous prend directement, il nous libère de l'idée qui était très répandue, qu'il fallait nécessairement passer par les esprits, par les anges, vous voyez, ou bien adorer le cosmos. C'est vrai que le monde est tellement énorme et tellement beau que les hommes ont été tentés de l'admirer. De même, les esprits, bon, ça, aujourd'hui, ils l'admirent dans le matérialisme, hein, ils le divinisent en quelque sorte, sans le savoir, ou alors dans les spiritualistes, eux, quelquefois, iraient trafiquer avec les esprits, hein, pour s'ouvrir un accès vers le divin par la magie ou par la sorcellerie ou je sais pas quoi. Et parce qu'ils disent, bon, les esprits nous sont supérieurs. Et justement, l'incarnation nous libère de ces deux supériorités qui sont vraies que sous un aspect. Le monde est plus gros que nous, mais nous, on est plus intelligents. Hein. Les esprits sont plus spirituels, mais si c'est des démons, ils sont fichus, quoi. Donc, justement, l'incarnation nous fait comprendre que Dieu s'occupe de nous directement et qu'il n'y a pas besoin de passer par la vénération du cosmos ou bien le trafic des esprits. Hein, parce que le Christ s'est incarné dans une nature humaine. Hein. Et il nous rappelle comme ça la dignité de notre nature, qui est magnifiquement soulignée par l'offertoire romain, hein, parce que chez Dominicain il n'y a pas ça, hein, ou du moins la bénédiction de la goutte d'eau, au Dieu qui avait fait la dignité de la nature humaine d'une façon si admirable et l'avait restaurée d'une façon plus admirable encore. Pour que l'homme ne désespère pas, le Christ lui rappelle sa dignité en prenant une nature humaine. Et dans l'ordre du salut, il n'y a rien au-dessus de l'homme si ce n'est Dieu, dit saint Thomas. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de passer par l'adoration de puissances intermédiaires. Non, il est connecté par le Christ directement avec Dieu. Les anges sont là pour faire foufou autour, d'accord, et pour nous aider. Mais, vous voyez, c'est important de penser que... et puis les saints intercèdent, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gens qui nous aident à aller dans le bon sens. Mais... au-dessus de nous, ben, pour le salut, c'est Dieu. Hein. Et donc, c'est quand même assez porteur. C'est quand même assez porteur. Une grande partie de l'humanité, fait remarquer saint Thomas, s'est détournée de la fascination du culte des esprits ou du monde. Et elle a mis à leur juste place la jouissance terrestre et s'est vouée au culte de Dieu seul, jusqu'à donner sa vie dans le martyre. Donc ça, c'est vraiment très, très étonnant parce que, en fait, une grande partie de l'humanité, c'est une des plus grandes preuves du christianisme, du catholicisme, c'est que c'est la transformation morale, enfin la réalisation des prophéties, hein, la transformation morale d'une partie de l'humanité, qui n'est pas toute l'humanité, mais qui est quand même très notable. Les gens commencent à pratiquer une morale au-dessus de la morale, au-dessus des capacités naturelles, et adhérer à un dogme au-dessus de l'intelligence, et tout ça au péril de leur vie. Donc c'est intéressant à la fois de contempler, si vous voulez, la sollicitude de Dieu qui se penche sur nous, je dirais au-delà des anges et en nous mettant en contact direct avec lui, et puis en même temps des fruits que ça donne. À savoir quand même cette aération extraordinaire que l'incarnation a produit dans le comportement moral de l'humanité. Parce que c'est assez de bon goût, enfin de mauvais goût plutôt aujourd'hui, de cracher sur le christianisme et le catholicisme en lui attribuant, en exagérant tous les défauts des chrétiens et des catholiques. Mais un jour le cardinal Ratzinger a dit une chose que je trouve assez impressionnante. Il dit, ben, supprimez voir le catholicisme et vous allez voir les résultats. Parce que c'est facile de faire les gros titres sur toutes les défaillances, qui sont plus graves chez nous, bien sûr, que chez les païens, ça c'est vrai. Ou chez les âmes consacrées, plus graves que chez les baptisés. Bon, ça, c'est d'accord. Mais si vous supprimez, vous voyez, le christianisme ou le catholicisme, ben bonjour les dégâts. Ça va déjà pas très bien, mais ça ira vraiment pas plus bien après. Hein. Donc je crois qu'il faut aussi être un peu réaliste, vous voyez. Parce qu'on nous dit, oui, il y a ci, il y a ça, mais, d'accord, il y a ça. Mais ce qui est étonnant, c'est que l'Église survive à ça, quoi. Les prêtres sont un gnagnin péchant, l'Église survit à tous les curés, quoi. C'est quand même extraordinaire. C'est ce que disait un cardinal à Napoléon quand il négociait le concordat et tout. Ah, mais si vous ne faites pas ça, je vous détruirai. Oh, majesté, ça fait des siècles que nous essayons, mais nous n'avons pas réussi. Donc, lui non plus, il n'a pas réussi. Mais écoutez, c'est quand même intéressant. Ça, si on compare, moi, j'ai eu pas la chance, mais j'étais agnostique pendant 5 ans. Je me suis vraiment investi dans la comparaison des différents trucs. Mais à la fin de mon enquête, il n'y avait pas photo. Hein. Si Dieu existe, c'est le catholicisme qui est bon, hein, parce que c'est mieux. Quoi, voilà. Mais vraiment, on comprend les choses à choses égales. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des trucs extraordinaires, des gourous fantastiques, des super lamas, des trucs. Mais ça, d'accord. Ou peut-être, ils sont bien plus sains que vous, ce qui n'est peut-être pas très difficile. Là, bon. Mais je veux dire que d'accord. Mais ça, c'est comme des exceptions par rapport à l'ensemble. Hein. Vous comparez l'ensemble des croyants d'une religion et l'ensemble de son clergé dans les différents trucs. Et bien, le christianisme est un miracle moral. Parce que si on ne dit pas ça, ben, le Christ s'est incarné pour rien. Hein. Je suis désolé, mais il faut quand même être un peu réaliste. Hein. S'il a vraiment, je sais bien qu'on est pécheur, mais il a quand même un peu augmenté le niveau. Quoi. Et d'ailleurs, les principes par lesquels on attaque le christianisme ont été piqués au christianisme. Hein. En particulier pour la question de la dignité de la femme, ou ceci ou cela, ou les droits qui sont convenables en droit naturel, si vous voulez, le droit des gens. Enfin, tout ça vient en fait d'une réflexion chrétienne. Donc il faut bien voir ça. Et grâce à l'incarnation, nous sommes la voie est ouverte. Hein, on sent qu'elle est possible, et on sent que le Christ, bon, nous l'a ouverte directement, indépendamment de malgré notre petitesse dans le cosmos et malgré notre infériorité par rapport aux anges. Alors ça c'est la voie, la vérité. Le Christ nous enseigne, vous voyez. Donc ça c'est deux premières raisons de l'incarnation. Hein. L'incarnation du Christ nous prouve que la vision béatifique est possible, et en plus qu'on y est relié directement. Bon, maintenant, l'incarnation nous donne une pleine certitude dans la foi, et nous la donne de façon humaine, deux autres raisons. Alors, une pleine certitude, on avait besoin, vous voyez, la vision béatifique, à quoi nous sommes destinés, doit être préparée par la foi. La foi, c'est l'apprentissage de la vision, ça il faut beaucoup y penser. Hein, nous croyons ce que nous verrons, et dans le credo nous balbutions un peu ce dont nous aurons l'éblouissement, si vous voulez, et toute la vie de l'homme est une préparation à cette vision. Mais de même que quand on suit un cours, quand on apprend une matière, il faut commencer par faire confiance au prof pour finalement avoir la même science que lui si possible, hein, parce que celui qui apprend, il importe qu'il croit, c'est un adage d'Aristote qui est sans cesse repris par saint Thomas. C'est pour ça que la pédagogie est difficile dans une ambiance d'anarchie et de mépris du prof. Parce que justement, lui, voilà, au début, vous croyez, puis après, vous arrivez à démontrer vous-même. Mais vous faites provisoirement confiance. Et bien de même, là, il faut que nous fassions confiance à ce que Dieu nous dit sur son propre mystère, dans le but de finir par le voir. Et donc, il était bien qu'il nous enseigne, et que ce soit lui qui nous enseigne, plutôt qu'un saint du ciel. Parce qu'évidemment, les saints peuvent nous apparaître, hein, pour nous dire des choses. Ils voient Dieu, ils nous disent des choses, d'accord. Mais c'est mieux que ce soit Dieu lui-même. Parce que la chose est extrêmement importante, et notre vie est misée là-dessus, quoi. Donc il faut une pleine certitude. Et donc, par la parole du Dieu incarné, nous avons une pleine certitude sur le mystère de Dieu. Dieu, personne ne l'a jamais vu, dit le premier chapitre de saint Jean. Le Fils unique de Dieu, qui repose dans le sein du Père, lui, il est venu nous en parler. Donc c'est la première fois, vous voyez, personne n'avait jamais dit « Nul ne va à Dieu si ce n'est par moi », même Confucius, enfin, personne n'a eu le culot de dire une chose pareille. Et de fait, le Christ l'a dit, parce que lui étant Dieu, il était bien placé pour en parler et nous donner une pleine certitude, parce que nous avons besoin de cette certitude pour risquer notre vie dessus, quoi. Puisque celui qui... poursuivre le Christ, enfin le Christ a quand même mis la barre assez haut. Hein. Celui qui aime quelque chose plus que moi, il ne peut pas être digne de moi. Non, il emploie le mot haïr, c'est un sémitisme. Hein. Mais donc nous n'avons rien aimé plus que lui et tout pour lui. Donc c'est une prétention absolument énorme, mais fondée parce qu'il est Dieu. Et donc il nous donne une pleine certitude sur le mystère de Dieu. Et je trouve que c'est très, très touchant, enfin, de penser qu'il a fait ce voyage-là pour nous dire ce à quoi nous sommes destinés éternellement. Et puis deuxièmement, donc ça c'est la pleine certitude qui nous donne, hein. Parce qu'enfin des dizaines de milliers de gens, des centaines de milliers, et encore aujourd'hui beaucoup, meurent, je dirais, tout le temps, tous les siècles, tous les ans, et il y en a eu beaucoup au XXe siècle, il y en a encore, pour ça. Donc s'ils n'étaient pas sûrs, ce serait vraiment absurde. Or c'est des gens qui meurent en bénissant leurs assassins et en pratiquant les autres vertus, et pas en se faisant exploser pour tuer les gens, quoi. Donc il y a quand même une nuance entre le martyr chrétien et certains autres martyrs. Et c'est très important parce que ça a été aussi, à mon avis, c'est une des, dans les preuves, enfin les indices qui montrent la vérité du christianisme, le martyr au sens plein du terme, à savoir de gens qui meurent avec toutes les vertus chrétiennes. qui meurt avec la bénédiction de l'assassin, c'est surhumain. C'est absolument surhumain. Les stoïciens ne mouraient pas comme ça. Ou les bonzes qui se brûlent, c'est encore autre chose. Ils vont vers le néant pour... etc. Mais c'est quand même tout à fait différent. La fameuse transformation assise qui a fini par être interdite par les Anglais quand ils, dans leur colonie, où le bonze arrivait à un certain degré de transformation dans le grand tout, se brûle, quoi. Alors après, il y a beaucoup d'aumônes qui arrivent au monastère, en plus. Mais ça a été interdit, grâce à Dieu. C'est un suicide religieux, mais c'est... Bon, mais là, les chrétiens ont quand même de quoi miser leur vie totalement sur quelqu'un qui est fiable, et qui le prouve par sa vie. Et ensuite, il y a la pédagogie humaine, c'est le deuxième élément dans la vérité, c'est que Dieu nous enseigne humainement, vous voyez. Il était convenable que Dieu... La condition de l'homme demandait que Dieu instruisît de manière sensible l'homme au sujet de lui-même devenu homme. Et le Christ devient homme et nous instruit avec des paroles humaines, avec des jugements humains, avec des passions humaines, avec un cœur humain. C'était assez impressionnant de penser ça. La voix du Christ, voyons, on sent, parce que quand on voit les récits avec on a été instruit sur Dieu par quelqu'un qui avait des passions humaines, qui avait un cœur humain, qui avait des préférés, Jacques, Pierre, Jean, qui aimait Lazare, Marthe et Madeleine, qui parlait une certaine langue, qui avait une certaine attitude. Et vraiment, donc, c'est ce qu'il nous faut, quoi. Vraiment, l'incarnation, ce mot d'heure a pris cette extension pour désigner ce qui est bien concret et qui est à notre portée. Nous sommes des hommes et nous avons besoin de ça. Et je pense qu'une des choses les plus bouleversantes du christianisme, c'est que Dieu se soit exprimé en prenant le véhicule de moyens humains. Le Christ a parlé l'araméen, l'hébreu et le grec. Voilà, et les apôtres ont entendu cette voix. Ouais. Et après, ils ont chacun écrit, les quatre évangélistes, chacun avec son caractère humain, mais en faisant passer l'élément divin qu'ils avaient recueilli du Christ. Ce qui est quand même extraordinaire, ce qui est très différent du Coran. Le Coran est une pure descente, je vais dire presque physique, d'un texte qui est censé être incréé pour certains théologiens musulmans, par quelqu'un qui écoute et qui dicte après. Donc c'est un simple canal, mais un canal théoriquement vide. Et donc ça n'a rien à voir. L'humain n'est pas sauvé, si vous voulez. Moi je prétends que le christianisme, c'est celui qui sauve le plus l'humain, qui le divinise précisément. Parce que dans l'islam, on vous dit « soumets-toi ». Donc on souligne une vérité, c'est pour ça qu'il y a certains chrétiens ou semi-chrétiens qui passent à l'islam, parce qu'il y a une vérité qui est soulignée par les musulmans, qui est passée par les chrétiens, à savoir que Dieu est Dieu. Que Dieu est tout-puissant, que Dieu est infini. Voilà. Donc ils rappellent ça, mais ils rappellent que ça. Ils enseignent que ça. Et comme chez nous, les chrétiens ont oublié la toute-puissance de Dieu, enfin certains, la toute-puissance de Dieu, évidemment, c'est pas bon, parce que le Christ n'est pas intéressant s'il n'est pas le Dieu tout-puissant incarné. Quoi. Et donc ce Dieu tout-puissant s'incarne et sauve l'humain. Les pères de l'Église disent ce qui est assumé est sauvé. Or Dieu a assumé tout dans l'humanité de Jésus-Christ, sauf le péché. Donc vous voyez, même nos tempéraments, nos cultures, etc., il s'est incarné à un moment donné, il a utilisé tout ça pour faire passer le chemin du salut. Et c'est chaud, c'est merveilleux. Et du coup, la science de Dieu s'est répandue. Aucun philosophe, nous dit saint Thomas, aucun philosophe avant l'avènement du Christ ne put parvenir par tout son effort à en savoir autant sur Dieu et les vérités nécessaires à la vie éternelle qu'une enseigne petite vieille, la Vétula, c'est la grenouille de Bénitier qui est au fond de l'église, voire le batracien de Bénitier, comme disait du coup Bourget. Batracien de Bénitier. Mais bon, il y en a des très gentils, ils ne sont pas toutes méchantes. Après l'avènement du Christ au moyen de la foi. Mais c'est très intéressant ça. J'ai rencontré une fois un prêtre chinois à Rome, il m'a dit, je fais une thèse sur la Vétula de saint Thomas. La Vétula, la petite vieille. Alors, malheureusement, j'ai pas eu le texte de sa thèse, ça m'aurait passionné. La petite vieille d'après saint Thomas d'Aquin. Vous voyez que c'est charmant, quoi. Donc la petite vieille en sait plus sur Dieu, la petite vieille qui connaît le catéchisme. Donc c'est une petite vieille qui est assez vieille aujourd'hui, quoi. Enfin, à l'époque, on apprenait le catéchisme, quoi. Et donc, si elle apprend son catéchisme, même le catéchisme sapidis, vous en savez plus sur Dieu que Platon et Aristote n'ont réussi à savoir. Enfin, évidemment, vous ne le savez pas de façon aussi formalisée en métaphysique, mais quand même, c'est sympa, je trouve. C'est quand même assez un peu miraculeux, hein. Parce qu'on dit, ouais, les catholiques, vous êtes divisés et tout, machin. Bon, d'accord, attends. On est 1 milliard de catholiques, enfin, d'après les registres catholiques. Il y a 1 milliard de gugus qui, le dimanche, récitent un catalogue extrêmement compliqué où il est question de nature, de substance, de machin et tout le monde est d'accord, sinon on n'est pas catholique. À la Sorbonne, il n'y a pas deux types d'accord sur l'essence et l'existence. Bon, je ferme la parenthèse. Non, mais bon, c'est un truc d'un télo, donc ça vous fait peut-être rien, mais c'est quand même un vrai miracle, quoi. Il y a un milliard de gens qui croient que Jésus-Christ a une personne et deux natures, la Trinité, trois personnes, une nature. Alors évidemment, on baigne un peu là-dedans, mais ouais, enfin, on y croit, quoi. Ben, c'est fantastique. Voilà. Donc il y a une pédagogie humaine qui a fait passer tout ça. Et puis ensuite, Jésus est la vie. Donc les deux derniers éléments, hein, on a vu la vérité et certitude vitale, pédagogie humaine. Hein. Donc c'était qu'on a qu'il vienne. Et de fait, c'est un bon pédagogue. Hein. Demain, à l'instruction de Carême, je parlerai de Christ comme prêcheur. Très bon pédagogue. Et puis, la vie, donc le Christ éveille l'amour et nous éduque par son amitié. Deux derniers aspects parmi les autres signalés par saint Thomas. Donc on a vu dans la première série, la voie, là, il a éveillé l'espérance, il a réchauffé l'espérance, on peut y arriver. La vérité, il nous a réveillé la foi et de façon très bien adaptée. Et maintenant, il faut être motivé, il faut aimer. Il faut marcher vers lui, il n'y a pas d'amour. Et donc il faut aimer. Et rien ne pousse tant à l'amour que le sentiment d'être aimé. Enfin, c'est une expérience classique dans la psychologie de l'amour. Hein, la découverte qu'on est aimé, mais vraiment pour soi, hein, pas seulement pour avoir des avantages, aimer d'un amour de bienveillance, est une grande expérience humaine, spirituelle, un peu mystérieuse, hein, et qui change, qui peut changer. Vous l'avez constaté, vous, dans votre vie ou dans celle d'autres, voilà, la découverte d'un grand amour peut changer la personne et lui permettre de sortir le meilleur d'elle-même. Ce qui est un peu mystérieux, d'ailleurs. Parce qu'elle est toujours la même, mais c'est quelqu'un de l'aime, quoi. Donc, pof, elle va mieux, quoi. C'est drôle, hein. Alors, on n'y pense pas assez, c'est des trucs un peu bateau. Mais c'est que, voilà. Et bien, justement, l'incarnation est la preuve souveraine de l'amour. Parce que, quand on aime quelqu'un, on cherche à lui être uni, et on ne peut pas être plus uni que le Christ et l'humanité. Donc, découvrir que le Christ, que Dieu a tellement aimé l'humanité, qu'il l'a prise avec lui dans une personne divine, c'est bouleversant. C'est ce que saint Paul appelle la philanthropie divine. Et que dans la liturgie byzantine, on exprime en disant vous, avec votre incommensurable amour des hommes, vous vous êtes fait homme pour nous sauver, etc. Incommensurable. Un amour qu'on ne peut pas dire. Donc, se sentant aimé à ce point, eh bien, l'amour est déclenché, si vous voulez. Si nous avons été paresseux pour aimer, dit saint Augustin, ne soyons pas paresseux pour aimer en retour. C'est le thème redamare non pigiat, que nous ne traînions pas le fait de nous sentir comme ça aimé, ça nous porte à incandescence, et donc on se retourne dans l'amour vers Dieu. Et on marche vers lui à pas d'amour. Gressibus amoris, par des pas d'amour, on nous dit les actes de vertu chrétienne ou les actes de béatitude, c'est des pas d'amour qu'on pose dans la voie de Dieu. Et bien ça, l'incarnation, c'est formidable pour ça. Et puis, ça nous éduque par l'amitié, puisque c'est un amour réciproque. Hein, l'amitié est un amour de bienveillance partagée, réciproque. Le courant passe dans les deux sens. Et en plus, il y a un choix dans l'amitié, qui est très émouvant, parce qu'il y a échange d'une bienveillance réciproque et un choix libre des deux qui sont amis, qui décident d'être amis. Voilà. Et bien là, Dieu a décidé d'être ami avec nous. Et donc on est éduqué par cette amitié et on peut marcher avec lui en sécurité, vous voyez, parce que notre tendance, évidemment, on choisit souvent ses amis parmi les semblables, et nous, comme on est incliné vers les choses terrestres, c'est sûr qu'on va, voilà, on va pas être poussé à choisir beaucoup comme amis de préférence nos anges gardiens ou les saints du ciel, parce qu'on les voit pas, tout simplement. Mais le Christ, s'est incarné, on le voit. Donc Dieu est rendu visible pour que précisément par le visible, c'est la préface de Noël, nous allions vers l'invisible. Et que même les petits, nous dit saint Thomas, puissent trouver un chemin proportionné pour marcher vers Dieu par la voie de l'humanité du Christ. Alors c'est quelque chose qui nous est très très bon, parce que le péché originel nous avait fait coller au sensible de façon trop désordonnée. La chair t'a aveuglé, dit saint Augustin. La chair, c'est le péché d'Adam. C'est qu'on y voit plus clair dans le domaine spirituel que la chair te soigne et te libère. La chair du Christ, on ouvre les yeux. Et dans le baptême, paf, on ouvre les yeux à la fois et on peut voir les réalités. Par la chair du Christ, parce que tous les sacrements viennent du corps du Christ. Donc l'incarnation du Christ, avec tout cet ordre sacramentel qui en découle, est à notre niveau quelque chose qui nous ouvre aux réalités spirituelles véhiculées par l'humanité et le corps du Christ. Donc c'est un ordre absolument admirable, et l'Église d'ailleurs n'est que le prolongement de ce mystère de l'incarnation, pour nous ramener à Dieu par des choses qui nous sont connaturelles. C'est Gardini qui dit quelque part, Romano Gardini qui dit, oh le Dieu des chrétiens, comment dirais-je, alors, il cherche son mot et il dit, ben, au fond il est humain, au grand sens du terme. La divine sagesse, dit saint Thomas, qui avait fait l'homme, par la nature qu'elle assuma, donc la nature humaine de Jésus, visita l'homme, gisant dans les choses corporelles, afin de le rappeler par les mystères de son corps aux choses spirituelles. Et donc c'est assez impressionnant, surtout pour les prêtres qui donnent des sacrements, de penser que c'est ce que Bernanos appelle le miracle de nos mains vides. Nos mains sont vides, la grâce de Dieu passe par elles. C'est assez impressionnant. Parce qu'avec par le caractère sacerdotal, donc nous sommes habilités à être les instruments que le corps, que le Christ prend pour faire passer une grâce invisible. De même que, si vous voulez, le pinceau de Michel-Ange n'est qu'un pinceau, mais animé par le génie de Michel-Ange, il fait des choses éblouissantes. Et le prêtre, ou même les époux quand ils se marient, qui sont ministres mutuellement dans la théologie latine du sacrement, eh bien, ils sont les instruments d'une grâce qui les dépasse complètement. Et c'est pour ça que l'ordre sacramentel est extrêmement important. Tout le christianisme est structuré autour de cet ordre sacramentel. Dans les faits, il se trouve quelque chose qu'en fait qui est plus grand. Comment se fait-il que comme je vous disais, l'Église avec des ministres parfois médiocres, etc., elle produit un effet plus gros que ses ministres. C'est extrêmement impressionnant parce que c'est le Christ. Ouais. Le Christ qui les prend comme instrument. Donc c'est aussi encourageant. Oui, parce que c'est vraiment c'est la grâce du Christ qui opère par le prêtre, mais aussi par le chrétien. D'une autre façon, dans sa vie quotidienne, et qui opère quelque chose de plus grand, parce que c'est toujours le Christ. Oui. C'est toujours le Christ, et en fait, la vie chrétienne consiste à réactualiser cette présence du Christ que nous avons reçue au baptême, lorsque saint Paul nous dit, vous étiez autrefois ténèbres, c'est l'épître de demain d'ailleurs, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, et puis dans l'épître aux Romains, revêtez-vous du Christ Jésus. Au baptême, on se revêt du Christ Jésus. Et on lui devient, comme dit Élisabeth de la Trinité, une humanité de surcroît, en laquelle il peut renouveler son mystère. Ce qui est extrêmement impressionnant, alors les nouveaux baptisés adultes ont une conscience très profonde de ça, leur vie est changée parce qu'ils sont vraiment pris par le Christ et ils deviennent des instruments de la grâce du Christ, investis qui sont de la grâce baptismale. Sainte Catherine de Sienne dit dans le dialogue, « Ô abîme de charité, quel cœur n'éclaterait à contempler l'altitude descendue à tant de bassesse jusqu'à notre humanité ?» Nous sommes votre image et vous êtes devenu notre image par l'union que vous avez contractée avec l'homme en voilant la divinité éternelle sous la nuée misérable de la chair corrompue d'Adam. Quelle en fut la raison? L'amour. Et donc toutes ces raisons que nous voyons sont animées de l'intérieur de l'amour, par l'amour que Dieu a eu pour les hommes et qui donc nous motive fortement spirituellement et sacramentellement, pour lui rendre amour pour amour. Voilà, on va en rester là pour cette instruction.